Selon les professionnels de la santé, le TDAH se décrit comme un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par une difficulté persistante à moduler l'attention, qui entraîne des erreurs d'inattention, une difficulté à maintenir l'attention de façon soutenue, à résister aux stimuli distracteurs, à organiser, débuter et terminer une tâche, des oublis et une tendance à égarer ou perdre ses objets. Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Oya Sequoia, qui est fondatrice de TDAH au naturel. Je suis super contente de pouvoir avoir cette discussion avec elle aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on s'en parle, qu'on se suit. Super beau parcours, donc elle accompagne plusieurs femmes dans la découverte de l'accompagnement de leur TDAH. Donc, merci beaucoup
d'être ici avec moi. Merci à toi de m'inviter. J'étais super contente, comme tu dis, ça fait quand même un bon moment qu'on se suit.
Oui, hein?
Puis les deux, on est dans l'entrepreneuriat, fait que j'aime toujours voir qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu postes. Fait que merci
de m'inviter. Pareil, ça fait du bien de, comme on disait un peu tantôt aussi avant de commencer, de voir d'autres gens qui font un peu comme nous, puis c'est tout le temps dans la même mission, fait que ça fait plaisir. Mm-hmm. Les gens disent « Ah, mais est-ce que c'est une compétition? » Pas du tout, parce que nous, on a juste comme mission d'aider les gens. Là.
Exactement, puis tu sais, en plus, il n'y en a pas beaucoup au Québec, là, on va se le dire. Je pense qu'on est comme 3. Puis, fait que tu sais, c'est le fun de voir qu'on est quand même à proximité, puis c'est pas juste aux États-Unis ou ailleurs que ça se passe.
Ouais. C'est ça, tu sais, il y en a des pages qui en parlent, mais c'est toujours en anglais. Fait que mm-hmm. pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise en anglais, ou même juste que t'as le droit, même si t'es à l'aise en anglais, t'as le droit de vouloir du contenu dans ta langue mm-hmm. maternelle aussi, là, tu sais. Donc, c'est vraiment le fun. Puis de parler à différents niveaux aussi, parce que je trouve que, tu me diras ce que t'en penses, mais. On parle beaucoup, tu sais, veux pas du TDAH enfant, tu sais, puis l'accompagnement pour les parents avec l'enfant, mais on dirait que rendu à la vie d'adulte, puis je sais que toi t'accompagnes aussi beaucoup de femmes, on dirait que c'est comme si on n'en parle plus, puis mm-hmm. que comme entre guillemets comme s'il y avait plus de travail à faire, mais au contraire, puis sans oublier qu'il y a tellement de gens qui se font diagnostiquer adultes.
Mm-hmm, t'as vraiment raison, puis moi je pensais naïvement que à 18 ans c'est comme si mon TDAH allait disparaître là, mais c'est vraiment pas le cas. Ouais. Spoiler alert.
C'est qu'on dirait qu'on se fait tellement dire que c'est une affaire d'enfant, entre guillemets, qu'on dit, hey, moi aussi, là, en finissant l'université, je suis là, ah, c'est réglé quasiment.
Ouais.
Et boy, non.
Oui, puis c'est ça, tu sais, on parle beaucoup des défis des gens qui ont un déficit d'attention, que c'est des enfants, mais on oublie de se demander la question, comment est-ce que le TDAH va se manifester dans ma vie d'adulte? Mm-hmm. Est-ce que, tu sais, on pense pas, là, mais tu sais, ça a un impact sur la vie sexuelle, sur les relations, ouais. sur la vie financière, sur tous les aspects de ta vie, mais les défis que tu peux avoir rencontrés comme adolescent, comme enfant, ben ils vont se transposer dans ta vie adulte. Fait que je pense que c'est important d'en parler.
On pense beaucoup. Que, tu sais, bon, ben, moi, je me dis justement, j'ai fini l'école, fait que, tu sais, j'ai plus besoin d'autant de concentration, entre guillemets, j'ai plus besoin de prendre de médicaments, mais hey, couler un examen puis risquer de perdre ta job qui paye ta maison, mm-hmm. c'est pas le même stress non plus dans la vie, là.
Oui.
Puis toi, justement, j'ai oublié de le dire, mais tu es présentement en train de faire ton bac en enseignement aussi, donc clairement, aider les gens, c'est quelque chose qui te passionne.
Oui, vraiment, mais moi, j'ai voulu aller faire un bac en éducation pour apprendre à enseigner. Fait que. Je pense pas vraiment être dans le domaine de l'enseignement primaire comme j'étudie en ce moment, mais ça a été super enrichissant pour apprendre des stratégies d'enseignement, puis aussi pour trouver un peu comment est-ce que je peux faire de la différenciation dans ma façon d'enseigner des stratégies pour le TDAH. Fait que j'essaie d'apporter un enseignement qui permet aux gens d'avoir accès à cette information-là, puis que ce soit accessible facilement. Donc, ouais.
C'est tellement intéressant. Puis c'est vrai, là, tu sais, qu'il y a une différence entre savoir de la matière puis mm-hmm. bien l'enseigner, bien la communiquer, mm-hmm. là, tu sais, c'est tellement deux choses, là.
Ouais, puis j'avais pas envie de tomber dans le panneau de faire des ateliers puis des formations sur le déficit d'attention puis de le faire de façon super, super théorique qui fondamentalement correspond pas à quelqu'un qui est neuroatypique. Fait que, ouais.
Non.
Pas du tout. Pas du tout. On le sait que c'est pas un cours de 3 heures PowerPoint avec bien de la matière. Là. C'est pas ça qui fonctionne normalement pour nos types de cerveaux.
Oui, on oublie ça.
Exact. Ben, parle-moi donc un peu de toi. Moi, je le sais, mais comment t'as su, toi, que t'étais TDAH? T'es ton diagnostic, ça a été à quel âge? Comment ça s'est passé?
Mais j'ai reçu un diagnostic à l'âge de 6 ans. Fait que ma mère était dans le domaine de l'éducation aussi. Elle a constaté que j'avais des difficultés, mais c'était beaucoup, je vivais beaucoup d'échecs, pas seulement au niveau académique, scolaire, c'était vraiment aussi au niveau social. Tu sais, c'était difficile, pas juste...
Avec tes amis.
Ouais, c'est ça. C'était pas difficile juste à l'école, c'était difficile à la maison, dans mes interactions. J'étais super émotive. Tu sais, tout était comme beaucoup intense, prenant, c'était un peu lourd, puis le fait aussi que je sois souvent en situation d'échec, ben ma mère, elle voyait que j'étais pas heureuse, puis elle s'est dit, bon, mais tu sais, je constate qu'il y a une problématique, on va essayer d'aller voir avec un neuropsy, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai fait plusieurs tests, puis j'ai reçu un diagnostic de déficit d'attention vers l'âge de 6 ans, à peu près.
Avec le H aussi.
Oui, avec un grand H comme toi, tu disais tantôt.
Un H majuscule, ouais. Exact. Puis est-ce qu'il y en avait dans ta famille? Parce qu'on sait que c'est souvent génétique. Tu sais, il y a des fortes chances là, que ce soit.
Ben, mes parents n'ont pas eu de diagnostic, mais je pense que probablement que ma mère a un TDA puis mon père a un TDAH. Travers tout ce que j'ai fait pour TDAH, au naturel, mon père s'est beaucoup, beaucoup reconnu. Puis, on a travaillé sur un documentaire récemment, puis ça m'a vraiment touchée en regardant la diffusion. Il dit qu'il a appris des stratégies avec TDAH au naturel, puis il a appris à se comprendre. Tu sais, je trouve ça tellement beau, j'aurais jamais pensé pouvoir apporter ça à mon père, qui pour moi est un héros, là. Fait que, ouais. Je suis pas mal certaine que mes parents ont un TDAH.
Ouais, c'est sûr. En plus, à l'époque de nos parents, c'était encore moins, c'était encore pas super compris à 100% puis connu. À cette époque-là, ça n'existait pas quasiment. Là, dans leur... Ça existait en toi puis moi, mais dans la tête des gens, ça n'existait pas.
Mm-hmm.
Puis comment ça s'est passé? T'sais, 6 ans, c'est jeune. Est-ce que tu as commencé à prendre des médicaments? Comment, t'sais, du haut de tes 6 ans, du moins ce que tu te souviens, ça s'est passé?
Mais pour moi, ça a été super difficile parce qu'il y a un phénomène qui était très présent avant. Tu sais, j'ai l'impression que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais la façon dont nos parents apprennent que leur enfant a un déficit d'attention, c'est souvent très chargé d'émotions. Fait que des fois, le médecin, la façon qu'il dit, même s'il est super bienveillant, c'est comme... Ça feel comme quelque chose de gros, comme quelque chose de prenant, comme quelque chose qui va engendrer plusieurs défis, des difficultés.
Comme s'il t'annonçait que ton enfant avait un cancer.
Exactement. Puis moi, je me souviens que ma mère, ayant vraiment... Tu sais, elle a toujours été là pour moi, mais je sais que c'était comme un gros moment, j'ai l'impression, quand elle me l'a annoncé. Puis moi, je pensais que j'avais la leucémie. Je pensais que j'allais mourir. Fait que j'ai dit à ma mère, « Ben là, je veux-tu pouvoir avoir des enfants? » Je veux-tu pouvoir travailler? Je veux-tu pouvoir aller à l'école? Puis je me souviens que je pleurais, puis je me disais, ben voyons donc, tu sais, pourquoi moi? Pourquoi que mon cerveau, il est pas pareil? Alors que c'est juste une différence. Mais quand t'as 6 ans, là, ça peut tellement sembler comme étant quelque chose de gros, alors que ça ne l'est pas vraiment. Fait que,
Surtout, comme tu dis, c'est la façon que les médecins l'annoncent, puis que là, quasiment tes parents t'assoient dans le salon comme s'il y avait quelque chose de super comme grave, de... c'est sûr que ça peut être... Puis tu te sens différente, puis tu devais déjà te sentir un petit peu différente, dans le sens où tu me l'as dit, tu sentais que c'était peut-être l'école, c'était plus difficile, mais avec les amis, etc. Fait que ça a dû quand même te donner comme une espèce d'autre choc de « Hey boy, je suis vraiment différente.
» Bien, moi, comment je l'ai vécu, je me souviens qu'il y a comme un avant puis un après, puis le avant, je me souviens pas d'avoir eu un feeling d'être différente. Je me souviens que j'étais ultra bubbly, tu sais, j'étais comme dans mon monde, puis je parlais de façon un peu décousue, puis j'ai un rapport de mon professeur de première année qui a marqué que je tombais souvent en bas de ma chaise. Tu sais, j'étais comme un petit personnage, là, enthousiaste. Puis le après, c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait pris comme un marqueur puis qui avait fait un barbeau sur la perception que j'avais de moi-même, sur ma personnalité. Ouais. Fait que après ça, le primaire, secondaire, c'était plus difficile. J'ai tout ça eu comme une impression de manque puis de quelque chose à combler.
Quand même, hein? Comme si là, justement, pour bien des gens, d'avoir le diagnostic, ça met le doigt sur la chose, mais pour toi, c'est comme si ça l'a ouvert une une espèce de boîte de Pandore de tu savais plus trop.
Oui, c'est comme.
Mais jusque-là, tu te catégorisais pas par quelque chose, tu étais juste toi.
Oui, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu as 6, 7 ans, mais tu construis ta personnalité, tu sais pas trop comment tu es quitté. Puis moi, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris un morceau du casse-tête, puis qu'il l'avait enlevé, puis là, je me disais, ben, j'ai comme un manque. Fait que, j'ai un peu grandi avec cette perception-là.
Je comprends. Puis est-ce que tu as déjà pris des médicaments? Je pense que tu en as déjà
pris. Oui, j'ai pris la médication de l'âge de environ 7 ans à 18 ans. Puis vers l'âge de 18 ans, puis à travers ça, j'ai essayé plein de molécules différentes. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté. J'ai recommencé vers à peu près, je pense que j'avais 19. Jusqu'à récemment, j'ai arrêté pour un documentaire.
Puis justement, tu dis que tu as essayé plein de molécules, comme beaucoup d'entre nous. Je ne connais pas grand monde qui a trouvé la bonne first shot. Comment ça se passait? Est-ce que tu avais beaucoup d'effets secondaires? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené à vouloir arrêter, outre le documentaire?
Plus jeune, quand j'essayais les différentes molécules, j'ai eu plein d'effets secondaires, comme le sommeil, je m'endormais en classe, j'avais des tics.
Tu t'endormais même avec le médicament?
Oui, moi, il y a un des médicaments que j'ai essayé que je m'endormais, puis je me souviens que j'ai une prof qui avait tapé les bureaux, les livres sur mon bureau pour que je me réveille. Oh. Fait que ça m'avait vraiment marqué.
Parce que souvent, c'est quand même un peu stimulant.
Il y a deux sortes de médications. Il y a des médications qui agissent plus comme des inhibants. Fait que Strattera, par exemple, ils vont un peu plus inhiber qu'est-ce qui se passe autour de toi. Fait que ça fait un effet différent que le psychostimulant qui est différent.
Qui est stimulé une partie de ton cerveau, justement. Puis tu as essayé des deux, toi. Puis malgré tout, les deux, peu importe, ça... Tu te sentais pas nécessairement...
Ça a quand même fonctionné. T'sais, je sais pas comment que je me serais sentie si je l'avais pas pris, comment que ça aurait été à l'école. Ouais. Mais
est-ce que ça t'a aidé à l'école? Tu te sentais que ça allait un peu mieux, puis avec tes relations?
Je pense que oui, mais tu sais, comme j'ai tellement vécu...
Est-ce que j'aurais eu des notes différentes?
C'est ça, tu sais, j'ai vécu avec pendant des années et des années. Je me suis développée avec la médication, fait que c'est dur pour moi de savoir qu'est-ce que ça aurait été sans. Mais... tout ce que j'ai pris étant plus jeune, là, jusqu'à 18 ans, c'était plus un inhibant. Puis, tu sais, c'est pas démontré, mais moi, j'ai eu des effets secondaires que pour moi, comment je le ressentais, c'était en lien avec la médication. Fait que, tu sais, j'avais des idées suicidaires, c'était vraiment pas... ça allait pas super bien. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je décide d'arrêter. Puis, à partir du moment où j'ai arrêté, même si j'avais des défis, j'ai quand même été capable de remonter la pente. Puis... quand j'ai choisi d'en reprendre vers l'âge de 20 ans, ça, c'est un sujet qu'on pourrait parler, c'est mon partenaire de l'époque qui me disait « Ah, là, t'oublies telle affaire, tu devrais prendre ton médicament, notre couple irait mieux. »
Ça t'a mis de la
pression. Exact. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris un stimulant, mais c'est pour ça que maintenant, je dis aux gens, tu sais, le fait de prendre ou de ne pas prendre de médication, c'est un choix personnel.
Exact. Totalement d'accord.
Fait que tes amis, ta famille devrait t'appuyer, peu importe qu'est-ce que tu choisis. Puis même ton médecin de famille devrait voir avec toi c'est quoi les options, comment est-ce que tu te sens, puis vous devriez trouver des options ensemble selon qu'est-ce que tu ressens. Fait que tu sais, si tu dis « Oh non, je me sens vraiment pas bien », mais il faut que tu te sentes à l'aise de le nommer, puis c'est un choix qui t'appartient puis qui est vraiment personnel. Ouais.
Exact. Puis c'est correct de les nommer, tu sais, les effets secondaires, de pas cacher ça. Tu sais, moi, mon médecin me le demande souvent, de dire comme, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es encore correct? Mm-hmm. Tu sais, ça se pourrait aussi que ça soit correct pendant, par exemple, des années. Puis là, au bout de 3-4 ans, à moment donné, ce médicament-là, pour X, Y raison, tu sais, ton corps a changé ou même, tu sais, la vie, là, tu sais, t'as des stress différents, puis ça a comme déclenché quelque chose, puis là, ça fait plus, mais tu sais, il faut en parler, puis s'écouter, puis je suis d'accord avec toi sur le fait de le faire vraiment pour toi. Mm-hmm. De ne pas le prendre pour quelqu'un, mais ne pas aussi t'empêcher de le prendre pour quelqu'un.
Exact.
Moi, ça a été ça longtemps aussi. J'en avais pris plus jeune, j'ai arrêté, puis je combattais à me dire ah, je suis mieux que ça, entre guillemets, ou je devrais pas en prendre parce que comme tout le monde me dit que je suis capable de fonctionner sans. Puis là, on dirait, moi, justement, je le faisais de l'autre contraire. Je m'empêchais de le prendre pour, comme on dirait, essayer de faire plaisir à je sais pas qui, tu sais. Puis au final, je suis comme, hey, c'est mon corps, c'est ma vie, si oui. je veux prendre un médicament pour aller mieux, c'est moi qui décide. Mm-hmm.
Exact. Puis tu sais, c'est pas un choix qui est pour le reste de ta vie, comme tu dis. Exact. Aujourd'hui, t'en prends, si dans 4 ans, tu dis, moi, j'ai envie d'essayer ça, tout est correct. Souvent, on a comme l'impression qu'il faut comme prendre la décision pour toute notre vie, alors que c'est pas vraiment ça.
Oui, c'est vrai, comme tu sais, t'es pas enchaîné aux mm-hmm. médicaments jusqu'à ta mort, là.
Oui.
Il y a plein de façons de faire. Puis justement, si tu veux en parler un peu plus de ces périodes, fait que t'as recommencé à en prendre mm-hmm. pour ton partenaire de l'époque, à quel moment t'as réalisé « Hey, c'est pas ça qu'il me faut » ou « Je suis pas bien là-dedans » ?
Ça allait quand même bien, honnêtement. Tu sais, j'avais trouvé une molécule qui m'allait bien. J'avais un super bon médecin de famille avec qui je pouvais voir le dosage. Puis, comme tu dis, il me demandait souvent, tu sais, est-ce que t'as des effets secondaires, est-ce que ça va bien? Puis, somme toute, je me sentais quand même bien. Mais ce qui est arrivé, c'est que, je pense que c'était en 2019, j'avais commencé mon bac en éducation. Et là, j'avais un examen d'arithmétique. OK, pour moi, les mathématiques, c'est un cauchemar. C'est vraiment l'horreur. Puis, j'ai 50% du temps de plus pour mes examens. Fait que là, je me dirige à mon examen ce matin-là. Et là, je réalise en chemin que j'ai oublié de prendre ma médication. Fait que là, je me dis soit que je retourne chez moi puis que je manque 30 minutes. Fait que là, moi, j'ai besoin de mon temps.
Un peu d'avance. C'est ça.
Alors, sachant que les difficultés que j'ai, pour moi, 30 minutes, c'est énorme. Là. Ou
oui.
je prends tout mon temps, mais je prends pas ma médication. Puis j'ai réalisé ce matin-là que pour moi, c'était inconcevable de faire un examen sans médicament. Donc là, j'ai réalisé que c'était quand même un problème. C'est comme si j'ai tellement passé ma vie en prenant de la médication que sans médicament, j'avais comme pas de sentiment de compétence. C'est comme si je me connaissais pas, je me suis développée avec un médicament, fait que j'avais vraiment besoin de réapprendre à...
C'est comme si t'avais pas confiance sans le médicament.
Exact. Tu sais, quand t'as, mettons, 7-8 ans, puis tu coules un examen, puis là... ton prof te dit « Ah, mais c'est-tu parce que t'avais pas pris ta médication ce jour-là? » Ou t'oublies ta boîte à lunch, « Ah, ben ça doit être parce que t'as pas oublié ton médicament. »
Tellement, c'est tellement le genre de phrase qu'on entend.
Oui, fait que tu sais, tout ça vient faire en sorte que t'as comme pas de sentiment de compétence personnelle sans de la médication, alors que tu restes la même personne. Fait que mon choix d'arrêter est venu avec cet événement-là. Puis là, je me suis dit « Oh my God, ça serait tellement pertinent que... » je choisisse d'arrêter, mais qu'on fasse un documentaire puis qu'on essaye de documenter comment ça se passe, l'arrêt, les hauts, les bas, les stratégies que je vais choisir de mettre en place. Fait que c'est ça qu'on a fait.
Wow, oui. Vraiment cool. Puis finalement, ton examen, tu l'as fait sans médicament? T'es pas retournée chercher?
Oui, c'est le punch. je l'ai fait avec ma médication. Je suis allée la chercher puis j'ai coulé quand même.
Ah non! Oui. Ben, peut-être juste, c'est fou comment tu sais, la routine, ça compte pas beaucoup. Moi, je le dis toujours dans le TDAH. Le fait que tu n'aies pas eu le temps, que tu t'étais mis dans ta tête aussi, puis clairement, ça l'a chamboulé ton matin de dire hey, je suis arrivée à l'école, il faut que je revire de bord.
Ouais.
Là, ça t'a rajouté un stress que juste ça, c'est assez dans la tête d'un TDAH pour complètement changer ta journée.
Exactement. Puis, tu sais, après, en ayant arrêté, j'ai fait mon 100 jours sans médicaments, puis j'ai continué sans. Parce que j'avais développé des stratégies puis je me sentais bien. Puis, il y a, exemple, un examen de français, le TECFE, pour les futurs profs, ils savent tout c'est quoi. Puis, je l'avais coulé comme 6 fois puis je l'ai passé sans médication. J'ai fini par le passer sans puis j'ai eu récemment des cours de géométrie, des cours de mathématiques puis je les ai toutes passées puis j'ai eu des super bonnes notes même si je prenais pas mon médicament. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien puis ça m'a prouvé que toutes les stratégies que j'ai développées puis tout ce que j'ai été capable de construire autour a porté fruit, en fait.
Oh, vraiment. Puis j'imagine que ça a dû tellement t'aider dans ta confiance en toi puis ton estime personnelle.
Mais oui, tu sais, c'est sûr que la base, c'est vraiment de rebâtir ton sentiment de compétence personnelle parce que même toi, exemple, si tu choisis de prendre la médication puis s'il y a une journée pour une raison ou une autre que tu oublies, il faut que tu puisses compter sur toi-même puis que tu saches que tu as des stratégies qui peuvent pallier aux défis que tu peux rencontrer, que ce soit avec ou sans médicaments.
Totalement. Ben moi, je le dis toujours, puis comme tu as dit tantôt, je pense que prendre le choix, tu sais, le choix de prendre ou pas un médicament, ça te revient à toi. Puis il n'y a pas de bonne décision outre la tienne, tu sais, parce qu'on est tous différents, puis on a des besoins différents. Puis comme on dit, tu n'es pas attaché à vie, fait que si tu as besoin pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, toute ta vie, tu le fais. Mais moi, je le dis toujours, par contre, ce n'est pas tout. Mm-hmm. Le médicament, c'est une aide, mm-hmm. mais ça, c'est pas la seule aide. Puis même si tu prends un médicament, moi, des gens qui me disent « Ah, je devrais t'en prendre », je suis comme « Tu fais ce que tu veux », mais sache que même si tu prends un médicament, même si tu as la plus grosse dose, peu importe quoi, tu as quand même besoin de te mettre en place des stratégies. T'sais, le médicament n'est vraiment pas mm-hmm. tout. Là. C'est pas comme « Je prends ma pilule, puis je suis plus TDAH, puis toute la vie a mm-hmm. changé. » Tu as quand même besoin de te mettre beaucoup de stratégies en
place. C'est ça, puis tu sais, j'ai réalisé que des fois avec la médication, moi j'avais tendance à... j'avais pas l'impression que je poussais mes limites, mais on dirait que j'étais moins à l'écoute de mon corps, de ma fatigue. Pour okay. ceux qui prennent des psychostimulants, vous savez que ça coupe la faim puis qu'on sent moins la fatigue. Ouais. Fait que moi, j'avais tendance à en mettre vraiment beaucoup dans mon assiette puis avoir une vie super chargée. Puis j'ai une entreprise avec mon copain, fait que je faisais ça avec TDAH au naturel. J'allais à l'école puis je travaillais. Puis ouais. quand j'ai arrêté, j'ai réalisé que je n'avais pas appris à vraiment bien connaître mes limites. Fait que le fait de fonctionner sans, ça m'a obligée à me dire, OK, ça, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Est-ce que c'est trop? Est-ce que je dépasse ma limite? Fait que c'était une façon pour moi d'apprendre à me connaître. Puis, tu sais, je sais que si tu prends la médication puis que tu n'as pas ces stratégies-là puis que tu n'apprends pas à être à l'écoute de ton corps, mais des fois, le psychostimulant va faire en sorte que tu vas être super focussé, mais pas sur la bonne chose. Fait qu'il faut que tu réapprennes à fixer des objectifs, à comprendre comment tes fonctions exécutives fonctionnent. Fait que, oui.
Totalement, parce que je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, comme ça, tu sais, le médicament, c'est pas tout. Puis, comme tu dis aussi, la journée, parce que ça arrive tout en tant que TDAH, qu'on passe tout droit puis qu'on oublie de prendre un médicament. Fait que la journée que tu le prends pas, tu peux pas non plus juste craper ta journée. Mm-hmm. Tu sais, comment tu vas faire pour quand même, OK, peut-être d'accepter, OK, elle va peut-être pas être autant performance, entre guillemets, qu'elle l'aurait été, mais je fais comment quand même pour me mettre en action puis avancer mm-hmm. des choses. Puis, tu sais, moi, malgré le fait que j'ai recommencé à en prendre, puis je le vis très bien maintenant, j'ai passé justement ce que les autres pensent de ça, mais je veux pas non plus me dire, ah ben, je dépense juste mm-hmm. d'un médicament, puis si je réussis puis je fais beaucoup de choses, c'est grâce à un médicament. Non, le médicament m'aide à être comme plus apte, entre guillemets, mais ce qui fait que j'atteins beaucoup de choses dans ma vie, mes objectifs, c'est les stratégies que je mets en place beaucoup mm-hmm. plus qu'un médicament. Oui. C'est juste que le médicament, c'est un petit push qui t'aide à aller un peu plus vite, mais c'est pas ça qui va faire que tu atteins tes objectifs. Mm-hmm.
Puis parfois, le traitement pharmacologique peut être une aide pour mettre en place des stratégies. Fait qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, bien, voici les stratégies que je veux développer, je vais prendre la médication, je vais travailler sur moi, je vais les développer, je vais essayer de les mettre en place, puis quand je me sens assez solide, bien là, je peux choisir de fonctionner sans. Ça peut être une avenue possible aussi, là.
Exact. Comme on disait, tu n'es jamais attaché à rien dans la vie. Là. Puis après ça, comme moi, j'ai arrêté pendant des années pour recommencer durant la COVID parce que là, ça allait moins bien. Puis peut-être qu'un jour, je vais réarrêter. Puis mm-hmm. tu peux faire des va-et-vient comme mm-hmm. ça avec le médicament, le temps que tu en parles à ton ouais. médecin, là, parce que tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain, là, ça va, par exemple. Mm-hmm. Mais si tu en parles à ton médecin, tout se fait. Puis toi, après ça, justement, cette découverte-là, d'arrêter le documentaire, comment t'es venue l'idée de dire, hey, moi, je vais créer une page qui s'appelle TDAH en naturel, j'ai goût d'aider les gens. Comment ça s'est passé, ce cheminement-là?
Mais le documentaire, c'était récent, c'était cet hiver, puis la page TDAH au naturel, excuse-moi, je fais ça depuis à peu près, je pense que j'ai... la page, je l'ai créée en 2019, mais j'ai commencé à donner des ateliers et des formations en 2017. Fait que j'avais fait des formations pour des organismes, puis j'allais donner les formations, les ateliers à l'organisme directement. Je faisais de l'accompagnement avec des couples, avec des enfants, des femmes, des hommes. C'est vraiment là que j'ai réalisé que c'était, pour moi, c'était naturel, c'était ma vocation, c'est ce que je voulais faire. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais pas nécessairement la même vision que les organismes avec qui je travaillais. Il y en a plusieurs qui voyaient le déficit d'attention comme étant une maladie, puis un problème, un handicap, puis tu sais, pour moi, ça me correspondait pas. Fait que j'ai fait le choix de partir TDAH au naturel parce que je pouvais faire quelque chose en respectant mes valeurs, en voulant transmettre quelque chose qui correspondait vraiment à mes valeurs.
Ben, ouais, à ton exact. Image, et aussi à la vision que toi, tu avais du TDAH.
C'est pour moi, c'est vraiment là, une condition neurologique avec laquelle on doit apprendre à composer, puis on doit apprendre à fonctionner en accord avec notre cerveau. Fait que moi, j'ai vraiment pas le discours qui est plus limitant. Je pense que c'est bien de voir les limites que ça apporte, Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tu te sentes encore plus puissante avec cette condition-là?
Exact.
Okay, oui.
De focusser sur le positif aussi, puis les forces mm-hmm. de ça, parce que les gens ont souvent tendance à voir le côté négatif de ça, mais il y a aussi tellement de forces. Je te comprends, moi aussi, je suis comme ça, puis tu sais, de OK, il va y avoir des choses qui vont être plus difficiles, puis des choses qui sont peut-être vues comme des points négatifs, des défauts, entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de qualités, de points positifs que tu peux te concentrer là-dessus. Puis moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'au final, TDAH pas, il n'y a jamais une personne de parfait, puis chaque humain mm-hmm. doit travailler sur sa personne. Fait que, tu sais, le TDAH, nous, c'est juste qu'on a ces traits-là qui souvent se ressemblent mm-hmm. d'un à l'autre, mais les neurotypiques, ça va être mm-hmm. autre chose à différents niveaux, tu sais. Faut juste que nous, on apprenne à travailler
mm-hmm. avec ça. Exactement, tu sais, chaque personne va avoir des défis qui leur sont propres, puis à partir du moment où tu apprends à connaître ton cerveau, que tu apprends à l'écouter, ben les manifestations, c'est rien d'autre que, moi je vois ça comme ton TDAH qui dit « Hey, ça me correspond pas » ou « Hey, ça, c'est cet environnement-là, il y a tel élément qui me font pas bien, là, fait que là, je commence à être plus impulsif, puis fait qu'il faut juste, c'est comme un enfant qui nous parle, faut être à l'écoute de qu'est-ce qui ressort. OK, là, en ce moment, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Bon, ben, on analyse qu'est-ce qui se passe, on observe qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui arrive après. Puis en apprenant à observer le fonctionnement cognitif, ben, mm-hmm. t'es capable de poser des stratégies qui vont agir en amont, puis qui vont aider à prévenir. Puis au final, ben, t'es capable de vivre vraiment plus en harmonie avec ton TDAH.
Totalement. Puis je pense que tu l'as dit, le truc, c'est d'apprendre à être à l'écoute de soi. Puis ça, je pense. C'est bon aussi, même si c'est pas TDAH dans la vie, mais d'apprendre à regarder puis analyser un peu, tu sais, tes réactions, tes pensées, tes actions pour essayer de justement comprendre, bon, ben ça me fait réagir comme ça. Ça, quand il se passe ça, il y a ça qui se passe, tu sais, puis d'essayer mm-hmm. de comprendre le plus de choses possible. Bon, ben moi, c'est ça mon objectif, mais j'ai de la misère avec ça. Comment je fais pour mm-hmm.
l'atteindre? Oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, ton cerveau sera pas différent du jour au lendemain que tu prennes de la médication mm-hmm. ou pas, fait que c'est tout à ton avantage de le regarder avec curiosité puis de dire « Ah, OK, ça fonctionne comme ça dans ma tête. » Tu comprends? Au lieu d'avoir une genre d'animosité, de me dire « Ah, j'aimerais tellement ça que ce soit différent. » Moi, j'étais comme ça avant, puis c'est ça que je me disais, mais ça mène nulle part, puis ça nous aide pas. Fait que juste de développer cette curiosité-là puis de se dire « OK, ben moi, après 9h, je suis complètement non-fonctionnelle. Mes fonctions exécutives ne sont plus à l'écoute. Parfait, ben maintenant, je le sais. » Tu comprends? Fait que vraiment de...
Mais réorienter ta journée selon toi, tes besoins, puis selon comment ton corps et ton mm-hmm. cerveau fonctionnent ouais. à toi. Là. Puis je pense aussi avec où on s'en va dans la société en général, ça aide de plus en plus des gens neurodivergents comme nous, dans le sens où, tu sais, avec le télétravail, les heures de bureau changent un peu, les journées de semaine, fait que je pense que ça s'adapte encore plus, tu sais, à des neurotypiques mm-hmm. comme nous, que tu sais, moi, j'ai toujours dit fonctionner 9 à 5 sans bouger d'une chaise, c'est mm-hmm. impossible pour moi. Mais il y a aussi une journée que je pourrais travailler 12 heures d'affilée, mais il y a une autre journée, assis une heure, ça ne fonctionne même pas. Mm-hmm. Puis tu sais, de pouvoir jouer comme ça avec comment tu fonctionnes, là, ça mm-hmm. va être beaucoup.
Oui.
Puis comment ça se passe justement, là, après ça, tu as dit que tu as commencé à donner des formations, des ateliers. Puis tu t'es dit, OK, j'ai le goût de transformer ça vraiment en entreprise. Mm-hmm. Tu sais, c'est plus qu'un passe-temps puis un aide. Là, je transforme ça en entreprise.
Qu'est-ce que tu veux dire? Comment que ça s'est passé? Ou qu'est-ce que je...
Ouais, ben qu'est-ce que... Tu sais, tu as eu le déclic vraiment, bon, moi, je vais accompagner des gens. Puis, tu sais, comment tu t'es dit, bon, ben je vais créer... Quel type d'accompagnement je vais créer? Tu sais, que tu as construit?
Ben, je pense que ça s'est vraiment fait naturellement. Là, avant d'aller en enseignement, j'ai travaillé environ 6-7 ans en développement d'affaires. Fait que pour moi, j'étais une entrepreneur dans l'âme. Là, c'était sûr que j'allais entreprendre quelque chose plus tard. Fait que ça s'est vraiment fait de façon naturelle. Puis le type d'accompagnement, mais c'est à force de faire de l'accompagnement avec différents groupes de personnes, différentes personnes, que je me suis dit « Ah, ça me correspond mieux, ça me correspond moins. Mm. » Puis j'ai ciblé une clientèle avec qui, moi, j'étais à l'aise puis que je sentais qu'il y avait un besoin. Fait que je pense qu'il y a plusieurs femmes qui ont un déficit d'attention puis c'est il n'y a pas tant que ça de groupe de soutien pour les femmes. Mm-hmm. Souvent, on n'aborde pas le fait que ça a un impact sur notre côté hormonal va avoir un impact sur les manifestations. Fait que je ressentais vraiment un besoin de cette communauté-là. Puis c'est ce qui a fait en sorte que je suis allée vers cette clientèle-là, puis que j'ai vraiment adapté mes services selon les besoins que je constatais là, dans la société.
Oui, c'est un peu plus les femmes, là, on l'a nommé tantôt, là, mais si les gens se souviennent pas. Puis, ton accompagnement, est-ce que c'est plus... tu fais ça en ligne, en présentiel? Comment ça se passe si quelqu'un, par exemple, veut travailler avec toi? C'est quoi les étapes? À quoi
il fais principalement de l'accompagnement de groupe. J'ai une communauté qui s'appelle DS au naturel. Fait qu'on fonctionne sur des rencontres d'une heure par semaine pendant 6 semaines. Fait que c'est un groupe de femmes qui se rencontrent puis qui va aborder différents sujets en lien avec le déficit de l'attention. Le but, c'est vraiment que ce soit un endroit où tu peux poser les questions que t'es pas à l'aise de poser. C'est aussi d'avoir un accompagnement extérieur puis un soutien, d'avoir une communauté qui est là pour toi, parce que des fois, là, notre copain ou notre copine ou peu importe la personne avec qui on partage notre vie, nos amis ou nos parents, c'est pas nécessairement les bonnes personnes pour nous soutenir parce qu'ils sont très impliqués émotionnellement. Fait que quand t'as une communauté où tu sens que tu peux rendre l'appareil parce que des fois, toi, tu peux donner des stratégies parce qu'on n'est pas tous au même endroit dans notre parcours, c'est ultra, ultra, ultra bénéfique. Fait que les femmes, ça crée vraiment des liens incroyables. Puis moi, je suis là pour guider la rencontre, pour poser les bonnes questions, puis pour apporter des stratégies que moi, j'ai peut-être pris des années à trouver, mais là, je peux te les donner. C'est comme si j'avais un pack-sac plein de stratégies, puis on en essaie ensemble, puis là, j'en sors une, on l'essaye la semaine d'après. Ah non, moi, ça a fonctionné, moi non, pourquoi? Fait qu'on peut observer ensemble. Puis si ça n'a pas fonctionné, OK, c'est pas grave, tu sais, je regarde dans mon sac à dos, j'en ai une autre, je t'en donne une autre. Fait que, tu sais, ça... J'essaie de transmettre rapidement, puis le plus clairement et simplement possible, des trucs qui ont pris des années pour moi à bâtir ou à développer ou à trouver. Donc, ça se passe en ligne, parce qu'il y a des femmes qui viennent d'un peu partout à travers l'Europe. J'en ai en Belgique, au Maroc, en Suisse. Puis, c'est ça. Fait que, vu qu'on est de partout à travers le monde, c'est vraiment plus pratique en Zoom.
Ouais, puis ça se fait tellement bien nos jours... Je pense que la COVID a aidé pour ça. Oui. Là, on est tellement rendu à l'aise avec, avec le virtuel à ce niveau-là. Puis j'imagine plein de choses, mais qu'est-ce que tu as appris sur toi en accompagnant les gens, ou même soit sur toi en tant que personne ou même sur ton TDAH?
Bien, en accompagnant les gens, je constate qu'on vit sensiblement toutes les mêmes défis à différents niveaux, à différents moments. Puis souvent, une des raisons pourquoi je voulais arrêter de prendre ma médication, c'est que même si ça allait bien avec le médicament que je prenais, je voulais faire face au défi pour vivre le moment plus difficile, pour développer les stratégies, puis être capable de les enseigner par la suite. Fait que j'ai volontairement fait le choix de me mettre dans une situation difficile où j'allais avoir des défis au niveau de la gestion des émotions, de la gestion de l'impulsivité alimentaire, de l'image corporelle, parce que quand t'arrêtes de prendre ton médicament, ben, tu sais, souvent tu prends du poids. Fait que j'ai vraiment voulu faire face à ces situations-là pour pouvoir transmettre qu'est-ce que j'avais appris. Fait que la plus grande chose que j'ai appris en aidant, c'est de réaliser que toutes ces personnes-là vont vivre sensiblement les mêmes défis que moi. Fait que, fait qu'on n'est pas seuls.
T'as tellement raison, honnêtement, souvent, on en parle un peu au début, avant de commencer l'enregistrement, on se sent souvent seul là-dedans, même si on sait qu'on n'est pas les seuls, mais de partager avec une communauté, puis tu réalises, c'est vrai que, on passe pas mal par toutes les mêmes étapes, peut-être pas en même temps, puis de la même façon, puis de la même longueur, mais on passe quand même par les mêmes étapes, les mêmes questionnements, fait que, de pouvoir partager avec quelqu'un, puis juste, tu sais, je sais pas pour toi, mais... Moi, juste quelqu'un qui me dise « Hey, moi aussi, je pense de même. Moi aussi, ça me fait sentir de même. » Ça fait tellement un petit bombe au cœur, parce que des fois, tu te dis « Je suis toute seule, voyons. » Puis surtout, si tu n'as pas beaucoup de TDAH dans ton cercle, tu sais, moi, j'ai ma mère, mon frère qui est TDAH, mais dans mes amis, j'ai pas de TDAH. Fait que, tu sais, au quotidien, je suis tout seule, entre guillemets. Fait que c'est sûr que des fois, je me sens un peu comme, comme perdue dans mon petit monde.
Oui, c'est vraiment ça. Puis tu sais, c'est de voir que t'es pas seule, puis de voir aussi qu'il y a quelque chose de vraiment beau qui peut sortir de ça, de voir que tu peux, tous les défis que tu rencontres avec le déficit d'attention, que ce soit l'hypersensibilité, il y a vraiment une façon là, de tourner ça pour que ce soit à ton avantage, puis c'est ça qu'on essaie de faire ensemble, fait que, ouais.
C'est vraiment cool. Puis j'imagine aussi que tu as des, je veux dire des femmes parce que c'est ton créneau, mais que tu as des femmes de tous les âges, mais aussi de tout, je sais pas comment dire ça, mais de, je veux pas dire niveau, mais
toutes de les étapes de leur TDAH, ouais.
Sont sûrement des gens, ou des mm-hmm. gens qui viennent d'être diagnostiqués, des gens qui savent.
Oui, on est vraiment, tu sais, toutes les femmes de la communauté, en fait, ils sont pas rendues au même endroit dans leur évolution. Puis on n'est pas rendu au même endroit dans notre évolution, mais il faut savoir aussi que, par exemple, toi, tu as un déficit d'attention, ça se peut qu'à un certain moment de ta vie, tu sois rendu fou loin dans ta gestion des émotions, mais que la concentration, ce soit difficile. Puis que 3 ans plus tard, ouais. tu te dis, « Oups, là, j'ai un nouveau défi là, avec la gestion des émotions, mais je suis vraiment capable de me concentrer. » Fait que c'est quelque chose qui va varier selon les années. Puis, fait que,
selon ce que tu exact, vis fait, dans ta vie aussi. Là, les
ouais. fait que non seulement on n'est pas au même niveau, mais on n'est pas au même niveau dans les différentes sphères de notre vie puis les différents défis en lien avec les déficits d'attention.
Totalement. Puis qu'est-ce qui ressort le plus souvent dans tes groupes, dans le sens sans partager d'histoire, là, mais tu sais, quand on dit on se sent moins seul ou on passe par les mêmes choses, qu'est-ce qui, tu dirais, hey, ça ressort chez quasiment toutes les femmes?
Hey, ça, là, c'est 2 trucs que j'ai appris. Ben que je savais que j'avais un défi, mais que même pour moi, cette année, en arrêtant ma médication, je l'ai confronté à 100 000 à l'heure, puis je l'ai vu que c'était très présent dans les groupes d'accompagnement, c'est le sentiment de rejet est incroyablement fort. Mmh. La façon dont on vit, où on perçoit quelque chose qui pourrait être du rejet, la sensibilité, c'est très, très, très présent. Puis aussi la flexibilité cognitive. Ça, c'est 2 défis qui ressortent quand même assez souvent. Au-delà là, de l'organisation, tu sais, souvent on parle de la gestion ouais. du temps. On dit que c'est juste ça le TDAH, mais c'est... Ouais.
C'est tellement moins
puis, difficile. Ouais, fait que la flexibilité cognitive, c'est quelque chose qui ressort souvent. Là.
Puis, par la flexibilité cognitive, juste pour être sûr que c'est bien ce que j'imagine dans ma tête, c'est est-ce que c'est de justement, quand une situation n'est pas comme tu avais prévu, de pouvoir... Mm-hmm.
Ouais. En fait, le déficit d'attention va affecter principalement les fonctions exécutives, puis la flexibilité cognitive, ça va en faire partie. Donc, ça va être d'être capable de passer d'une émotion à une autre. Si, exemple, en ce moment, il arrive quelque chose qui me fâche, mais ça va être d'être capable de me dire, OK, je passe à autre chose, je sors de ma colère. C'est comme si on restait pris dans une émotion. Ça peut être aussi de passer d'une tâche à une autre, de passer d'un moment de la journée à un autre, puis les transitions entre les différentes tâches. Fait que, est-ce que en ce moment, je suis en mode, je sais pas moi, en mode gym, puis là, je m'en vais étudier, je dois passer d'un autre état d'esprit. Fait que c'est de passer d'un état d'esprit à un autre aussi. D'accepter les changements qui arrivent rapidement si on dit à la dernière minute que tu as un rendez-vous qui est annulé, puis que tu l'avais prévu depuis 2 semaines, ça se peut que tu aies un petit moment de comme « Oh, je résiste! Ça vient me chercher en dedans! » Mmh. Fait que c'est tout ça, la flexibilité cognitive.
Ah, c'est fou! Moi, je combats tellement avec ça. Dernièrement, j'ai vraiment réalisé, puis j'en parle beaucoup avec mon psychologue aussi, mais de ce côté-là, j'ai vraiment réalisé, on dirait, puis pourtant, je comprends pas pourquoi, c'est clairement, c'était évident que j'étais comme ça toute ma vie, mais là, on dirait que je réalise que dès que justement... ça change de comment j'avais fait mon plan ou ma routine. Mm-hmm. C'est comme si je ne sais plus comment fonctionner. Là. Puis là, je perds vraiment mes moyens. Puis autant que dans tellement de situations dans la vie, je suis bonne pour garder mon sang-froid. Je ne me considère pas comme une personne stressée dans la vie. Je suis très mode solution. Mais quand j'ai vraiment un plan, puis ça change, là, oh, que je peux perdre mes moyens facilement.
Puis des fois, ça peut être des trucs super banals pour les autres, mais ultra... Ouais. important pour nous. Là. Il y a 1 an, je pense, là, j'allais à un événement avec mon copain puis je voulais une sacoche en particulier parce que, histoire d'hypersensibilité, là, elle est pas dure, elle est facile à traîner. Puis là, je la trouvais pas puis j'étais comme pas capable de passer à autre chose. Puis je comprends que pour quelqu'un qui est neurotypique, tu dis, hein, voir qu'elle focus là-dessus. Mais pour quelqu'un qui est neuroatypique, quand que ça arrive, c'est là qu'il faut que tu aies des stratégies. Puis c'est là qu'il faut que tu te dises, exemple, si toi, tu as quelque chose qui change dans ta routine, c'est là que la médication, tu sais, c'est pas ça qui va faire un miracle. Il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce que j'ai comme stratégie pour être capable de passer à autre chose, pour travailler mon lâcher-prise, pour pas te retrouver toute seule prise avec ça puis te dire, oh non, je stick sur mon idée puis ça gâche vraiment ma journée au complet.
Vraiment. Je sais pas pour toi, puis ton chum, il est-tu TDAH?
On sait pas. On sait pas. Dans une chanson, il dit TDAH, peut-être, j'ai serré la hache de guerre. Fait que, on le sait pas. Mais,
OK. Bon, on le sait pas. Mais, mettons, quand même, dans les gens avec toi, je sais pas pour toi, mais oui, tu as développé des stratégies, puis moi, dans les stratégies que j'ai développées, c'est aussi d'en parler beaucoup aux gens qui sont avec moi, puis de quand je suis dans des phases comme ça, je vais les appeler dans des réactions comme ça, ben de dire comme, j'ai pas besoin de quelqu'un qui panique comme moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va agir comme ça, puis tu sais, moi, justement, j'ai beaucoup comme informé slash éduqué, si tu veux, mon chum là-dessus, puis tu sais, maintenant, il m'aide beaucoup à me calmer parce que tu sais, je suis comme, bon, ben quand j'agis de même, il faut que toi, t'agisses comme ça, tu sais, ça peut être une stratégie de pas être toujours seule, tu sais, de penser que t'es pas toujours seule là-dedans, de dire, regarde, c'est correct de comme, c'est correct d'apprendre à faire les choses toi-même, mais c'est correct aussi de t'entourer des gens avec toi puis qui t'aident.
C'est super
aussi,
bon ce que t'as fait parce que, tu sais, ça démontre une grande acceptation de ta condition, puis ça démontre que t'es rendu à une étape où tu peux en parler. Puis non seulement tu peux en parler, mais ça, tu peux le faire probablement parce que tu t'es entouré de gens bienveillants qui veulent t'aider, qui veulent t'accompagner. Mais quand on peut le nommer, on est capable de dire, écoute, moi, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est pas grave, là. Je vais revenir dans comme 10-15 minutes, mais je le sais que c'est ça qui se passe. Si, exemple, tu reviens de travailler, t'es surchargé, que tu comprends ton fonctionnement cognitif, ça se peut que tu dises, aïe, en ce moment, là, j'ai une surcharge cognitive, je peux pas, je suis non fonctionnelle. J'ai besoin de quoi? Ouais. Tu sais, si on se connaît pas, on peut commencer à être irrité, être impulsive ou agir de façon qu'on voudrait pas avec les gens qu'on aime. Mais là, si tu te connais assez bien, tu peux dire, hey, moi, en ce moment, là, j'ai besoin d'aller prendre une marche, 10 minutes, 20 minutes, je reviens, je vais être top shape. Puis à partir du moment que tu le nommes, l'autre personne, elle se dit pas, mon Dieu, c'est-tu moi qui ai fait quelque chose? Puis encore mieux, elle va savoir comment elle peut t'aider dans cette situation-là. Fait que,
Totalement. Puis comme tu disais un peu au début, on en parlait, tu sais, d'apprendre. Puis c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu sais, d'apprendre à justement mieux se comprendre, mieux se connaître, puis accepter aussi. Moi, je trouve que c'est beaucoup dans le TDAH d'accepter commenter, accepter tes réactions, accepter les choses. Puis de dire comme, moi, ça arrive souvent, il y a des fois, juste mon chum qui me demande qu'est-ce que tu veux manger pour souper, je suis comme, non, ça peut pas fonctionner. Tu sais, comme dans ma tête, je suis comme, laisse-moi dire ça, il y a juste une question de même, peut comme, tu sais, ça surcharge le cerveau, je me sens overwhelmed, je suis comme, non, parle-moi pas 10 minutes, j'ai juste besoin de ma bulle.
Fais le choix, je vais l'accepter.
Exact. C'est ça, tu sais, mais comme tu dis, des fois, je pense que d'accepter puis de se retirer, moi, des fois, je dis aux gens, j'ai besoin de 10 minutes seule, laissez-moi 5 minutes, comme, puis de comme pouvoir te cool down un peu, te recentrer, puis de, tu sais, de pas essayer de combattre, de dire, ben non, je suis avec des gens, fait que je vais essayer de combattre ça, de dire, moi, ça m'arrive, des fois, j'étais avec des gangs d'amis, puis je vais m'enfermer 5-10 minutes tout seul, puis comme, essayer comme de recharger ma batterie rapidement.
Oui, fait que l'acceptation, c'est vrai que c'est super, super important, parce que plus tu vas à contre-courant, plus tu essaies d'être comme quelqu'un qui est neurotypique, plus tu souhaites que ton cerveau soit différent, pire que tes manifestations vont devenir. Ils vont devenir de plus en plus forts, puis c'est comme si l'enfant qui t'écoute pas, il dit « Hey, écoute-moi! » Puis là, tu l'écoutes pas, il va parler de plus en plus fort. Fait que c'est un cercle vicieux. Puis à partir du moment, comme tu dis, que tu rentres dans l'acceptation, tu peux enfin l'écouter puis voir qu'est-ce que t'as de besoin.
Ouais, puis même aider tes relations. Tu sais, moi, j'ai vu que ça l'a beaucoup aidé, mes relations avec mon chum, mais avec ma famille, avec mes amis, de nommer les choses. Puis comme tu dis, qu'ils comprennent que ben t'es pas fâché contre eux, ou t'es pas bête, ou t'es pas froid, que t'es... eux aussi, ça les aide à mieux te comprendre, puis par le fait même, bien que tout le monde ait des relations plus
Puis là, tu as dit quelque chose, ça m'a fait penser à un point en particulier là, qu'on peut aborder, parce que je vais voir si je suis toute seule ou pas. Mais est-ce que ça t'arrive aussi que, exemple, tu veux dire quelque chose, puis on dirait que ta face a dit d'autres choses. C'est comme si, au niveau social, pour nous, des fois, c'est difficile de faire passer un message. Comme on veut paraître d'une certaine façon. Puis là, finalement, la personne, elle dit, ben voyons, t'es clairement fâchée ou irritée, alors que t'essayes de démontrer l'inverse. Ça, c'est vraiment un défi qu'on parle pas souvent, mais qui est présent.
Oui. Totalement. Oh my God, moi, là, tous mes amis disent, sont comme toi, là, si ça va pas dans ta face, autant positif que négatif, là, mais si t'as une émotion, tu ne peux pas dire le contraire, puis comme... Tu sais, mettons, justement, des fois, ben tu vas être comme fâché quelque chose, mais tu veux pas le dire parce que ça peut arriver, ouais. Que t'es soit pas prêt ou parce que...
Ou tu dis, je vais le gérer tout seul, mais ta face, elle veut pas.
Exactement, tu sais, mais ta face, elle veut pas en tout, là, tu sais, ou comme, des fois, moi, je suis comme, juste, j'ai pas le goût de chercher à chicane, fait comme, je vais gérer ça plus tard, mais là, les gens sont comme, ben dis-le, puis là, c'est comme, non...
Alors, tu vois, ça, c'est un des trucs que j'essaie de transmettre aux femmes avec qui je travaille, c'est d'être capable aussi de dire « Voici comment je me sens, ça m'appartient, mais présentement, je vais faire le choix de le gérer toute seule. » Fait que ça, c'est une autre façon que ça peut aider à mettre ses limites puis à dire « Ben, c'est ça que je vis en ce moment. » C'est pas nécessaire qu'on en parle parce que je sais que ça m'appartient. T'sais, là, tu disais « Je suis fâchée. » Exemple, « Ben, telle situation fait... m'a fait sentir fâchée. C'est ça que je ressens comme émotion présentement. Je sais que t'as rien fait de mal. Ça m'appartient. Je vais prendre 10 minutes. Puis je vais revenir. Puis tout va être correct. Fait que, ouais.
C'est ça, ouais. Dans ces situations-là, ça va. Moi, souvent, c'est que ma face, je sais, c'est comme si j'ai pas incapable d'un poker face, de comme. Ou si quelqu'un me tombe. T'énerves, ouais. C'est quelqu'un. Mais tu sais, dans société, là, comme, tu peux pas dire tout le temps ce que tu penses aux autres, là, puis comme, si tu trouves que la personne devant toi, ce qu'elle dit, c'est con, comme, normalement, entre guillemets, tu vas pas le dire. Puis moi, je veux pas le dire, justement, parce que je comprends ce degré-là de société, mais ma face, on dirait qu'elle, elle le comprend pas. Fait que là, je vais être comme, mais comme dans ma face, ça paraît que je m'en fous totalement, puis mes gens sont tout le temps crampés, parce qu'ils sont comme, toi, là, si on te connaît, là, ça paraît, là, tu peux pas berner personne. C'est vrai. Mais t'es pas tout seul. Je serais curieuse, ben les gens qui nous écoutent pourront nous le dire, mais je serais curieuse de voir est-ce qu'il y a d'autres gens comme nous qui... J'ai l'impression qu'il doit en avoir beaucoup.
Ouais, mais moi, je le vois souvent. Tu sais, je pense que ça a un lien avec, comme on disait tantôt, avec la flexibilité cognitive, la gestion des émotions, puis aussi au niveau de... pas de l'imperméabilité, mais de la... Oh my God! Ton cortex préfrontal, c'est ça qui t'aide à faire, c'est de, ton inhibition, je cherchais le mot. Fait que de pas dire tout ce que tu penses, fait que le temps, on dirait que tu te dises « Hey, c'est une mauvaise idée », ben des fois, c'est déjà sorti. Fait que, ouais.
Ah ouais, ouais. Moi, ça m'a souvent mis dans des situations quand même difficiles à gérer. Tu le dis, puis t'es comme « Pourquoi j'ai dit ça? Oh my God! » Puis tu sais, c'est pas que tu le penses pas, mais c'est juste que tu sais que t'aurais pas dû dire ça pour éviter des problèmes, des situations. Mm-hmm. Mais ouais, moi, ça, c'est une des choses où j'ai dû le plus travailler, là. Pas essayer de mettre un filtre dans tout ce qui se passe dans ma tête, là, parce que... Puis le pire, c'est que, tu sais, c'est pas pour être méchant, c'est juste dans ta tête.
Oui, puis des fois, faut apprendre aussi à concevoir que nos pensées sont pas tout le temps vraies. C'est pas vraiment ce qu'on pense vraiment. Des fois, c'est juste comme des pensées impulsives qui valent pas nécessairement la peine d'être dites, puis qu'on pense même pas, tu sais, 5 minutes après, on est cool down, on s'est calmé, puis on réalise qu'on le pense pas, puis c'était overreact.
Ah, ça oui, l'impulsivité, là, totalement, totalement. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression aussi, des fois, puis dis-moi ce que t'en penses, que, justement, un TDAH, souvent, va être plus impulsif dans sa façon même de parler, comme tu dis, moins d'inhibition, fait qu'on va dire qu'est-ce qui nous passe par la tête. Mais j'ai aussi l'impression, comme oui, il faut mettre un petit filtre à ça, mais j'ai aussi l'impression qu'en général, surtout les neurotypiques, ont peut-être plus de difficultés à avoir la vérité. Moi, je le vois beaucoup chez mes amis, puis ils sont comme, ah, oh, mais Alex, toi, t'es très direct. Je suis comme, ouais, mais en même temps, c'est peut-être vous qui avez des difficultés avec la vérité, parce que si c'est bien dit, on s'entend que si, tu sais, ce que tu sens, c'est impulsif, c'est méchant, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, les TDAH que je connais ont plus de facilité à se faire dire, je veux dire, en bon québécois, les quatre vertés d'en face, tu sais. Je sais pas si c'est parce que notre vie, on s'est fait un peu pointer du doigt en se faisant dire, hey, toi, t'es différent, t'es ça. Fait que moi, me faire dire quelque chose que je fais pas bien ou que je dois travailler, etc., ça, on dirait que ça m'affecte moins que quand je dis quelque chose comme ça à mes amis, mettons, qui vont être neurotypiques, dire, ouais, mais quand tu fais ça, me semble, ça, tu pourrais travailler sur toi. Puis on dirait qu'ils virent plus sur la défensive.
Je pense qu'il y a un peu des deux dans les toutes les circonstances, pour plusieurs raisons. Il y a probablement des gens qui ont un TDAH qui sont super sensibles, comme je disais tantôt, au rejet. Fait que les commentaires, ça peut être difficile. Mm. Ça peut être perçu comme ben tu fais pas ça de telle façon, donc moi je suis pas bonne. Fait que je pense qu'il y a un petit peu des deux. Puis ouais, je ne saurais dire pour les gens qui sont pas neurodivergents. Non,
c'est pas blanc ou noir là, ça c'est sûr. Mais on dirait que moi en général,
je pense que les personnes qui ont un déficit d'attention, on n'est pas très rancunier, puis on oublie quand même assez rapidement là. En tout cas, moi comment je le vis, c'est
on va se fâcher vite, mais on se défend.
Personnellement, comment je le vis, c'est que je suis vraiment boblie, puis je suis vraiment comme, je dis ce que je pense, j'essaie de le dire la bonne façon, mais après, j'ai oublié que je peux pas être rancunière envers quelqu'un d'autre parce que mon amour pour les gens est tellement incroyablement grand que je m'en souviendrai même plus pourquoi j'étais fâchée contre toi. À moins que tu aies vraiment fait quelque chose de vraiment grave. Si c'est vraiment grave, comme, there's no way back, mais c'est super rare. C'est comme, je pense que c'est arrivé deux fois dans toute ma vie. Fait que, puis encore là, je vais quand même aimer ces personnes-là. Fait que, je pense qu'on, comme tu dis, on le prend. Peut-être que sur le coup, ça nous fait vraiment mal, mais on passe tellement à d'autres choses rapidement que, puis on a tellement le désir de bien faire les choses, puis de plaire aux gens, puis de que les gens soient bien. On veut vraiment que les autres autour de nous se sentent bien. Fait que si quelqu'un nous dit « Hey, t'as fait ça tantôt, ça m'a un peu fait de la peine », c'est sûr qu'on va redoubler d'efforts la prochaine fois pour vraiment mettre la personne à l'aise.
Mm-hmm. Le fait aussi, il y a quand même beaucoup, c'est pas tout, mais il y a quand même beaucoup de TDA, TDAH qui ont des hypersensibilités. On est souvent plus, je vais dire plus entre guillemets, là, mais plus à l'écoute des émotions, de nos émotions, des émotions des autres. Donc, tu sais, justement, les chicanes, les situations comme ça, on va essayer de les comprendre. Puis que, tu sais, comme tu dis, que les gens se
sentent bien. Oui, quand on apprend à ne pas être envahi par ces émotions-là, on peut très bien devenir vraiment des gens super à l'écoute, puis super...
C'est ça qui est super drôle et ironique. Tu sais que le TDAH est considéré comme t'es pas à l'écoute, t'es pas concentré. Puis, moi, dans les gens les plus à l'écoute que je connais, c'est des TDAH. Puis souvent, moi, une des choses que j'ai le plus dit par les gens dans ma vie, c'est « t'as tellement de belle écoute ». Mais quand tu y penses, c'est tellement ironique, parce que c'est la chose que tu te fais reprocher, mais en même temps, les gens te
disent que parfois, ce qu'on va constater, tu sais, je travaille aussi avec les enfants, mais c'est des fois, il y a un enfant que certains adultes peuvent dire « Ah, tu vas voir, lui, il est tout le temps dans l'une, puis il écoute pas. » Mais si tu fais le test, puis tu lui poses des questions, mais ils sont vraiment à l'écoute, c'est juste que notre façon d'être à l'écoute ne démontre pas socialement de l'écoute. Fait que pour expliquer mon point, là, c'est si, exemple, pour quelqu'un, écouter, ça veut dire dessiner en même temps ou regarder ailleurs en même temps parce qu'il pense à qu'est-ce que tu dis, ben socialement, c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que pour écouter quelqu'un, il faut que tu le regardes dans les yeux, faut pas que tu bouges, faut pas que tu fasses d'autres choses. Mais nous, notre façon d'être à l'écoute, elle est différente. On a besoin de bouger, on a besoin des fois de regarder ailleurs, puis on pense à ce que tu es en train de nous dire, mais c'est ça, c'est juste perçu différemment par la société.
C'est vrai. Puis c'est ça qui est difficile souvent pour nous. Il faut essayer de s'adapter. Mais moi, justement, si je bouge plus, je dois être assis sur une chaise puis essayer de te regarder dans les yeux. Je t'écouterai pas, parce que je vais essayer de me concentrer à dire faut que j'ai l'air de l'écouter. Faut que tu aies hoche la tête. OK, hoche un peu plus la tête. Fixe-le. Puis là, j'essaye tellement, on dirait, de comme répondre à une espèce de standard qu'on s'est créé qu'au final, j'écoute bien moins que si je suis en train de quasiment passer mon aspirateur dans ma maison. Tellement, je comprends totalement ça. C'est tellement intéressant. Dernière petite question que j'aime toujours poser aux gens, puis je suis sûre que tu vas avoir des belles choses à dire. Qu'est-ce qui te rend fière d'être
TDAH? Oh my God! Oui, il y a tellement plein de choses. Je pense que c'est... Il y a un truc que mon copain dit tout le temps, qui je pense qu'il est super beau, mais il dit « ta naïveté est tellement pure ». Je pense que c'est vraiment ça. J'aborde le monde avec une certaine pureté, une certaine naïveté, une certaine... Des fois, je suis quelque chose que j'y vis depuis que j'ai arrêté la médication, c'est que si quelque chose me rend heureuse, je vais pleurer de joie. Comme tu peux me dire, Hey, salut, je suis contente de te voir, mais moi, je peux pleurer de joie juste là-dessus, là. Si ça me fait vraiment plaisir, tu sais, je suis vraiment authentique dans mes émotions, puis j'ai l'impression que ça vient un peu de ma condition neurologique, fait que. Ouais, c'est ça. Puis avant, j'aurais pu me sentir envahie par elle, mais là, c'est comme une vague, elle arrive. Tu dis, OK, en ce moment, je pleure de joie, puis c'est correct. Puis si c'est plus difficile tantôt, mais c'est correct aussi. Fait que je pense que c'est cette pureté, cette naïveté-là qui me rend fière d'être neuroatypique.
C'est vraiment beau, j'aime ça. Merci. C'est vraiment. C'est vrai que. C'est ça que tu dégages, puis je pense que d'autres TDAH aussi peuvent se retrouver là-dedans, dans cette naïveté, légèreté-là, de voir la vie de la bonne façon. Puis je pense que c'est ça que tu essaies aussi de communiquer, puis d'enseigner, tu sais, à tes clients, ta communauté, de voir la vie.
Oui, puis de vraiment être authentique, puis de pas essayer de masquer ou de cacher quand c'est difficile. Puis si tu le fais, essayer de voir pourquoi tu le fais, puis d'être en accord avec soi-même puis d'apprendre à s'écouter, je pense que c'est de faire comme de ton cerveau ton allié. T'as pas un combat à mener contre le fonctionnement de ton cerveau. De toute façon, tu vas perdre parce qu'il va être là pour toute ta vie. Fait que de vraiment le prendre avec toi puis de dire, OK, on y va ensemble puis qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer?
C'est vrai de pas le voir que t'es en bataille contre lui, mais t'es en bataille avec lui pour des objectifs. Tellement intéressant, je te remercie. Puis si les gens veulent te trouver, évidemment, je vais t'identifier sur la publication ou sur le podcast, mais...
Le moyen le plus facile, c'est sur Instagram, ma page TDAH au naturel. Vous pouvez m'écrire en privé, puis j'y réponds quand même assez rapidement. Sinon, sur Facebook, encore une fois, à TDAH au naturel. Puis avant de partir... Je tiens à te féliciter parce que je trouve que c'est vraiment inspirant de te voir. Tu sais, je sais que tu es une femme entrepreneur aussi, puis je vois que tu mènes de front tes projets, puis je trouve que c'est vraiment beau. Fait que je voulais te féliciter.
Ça fait vraiment plaisir, puis j'apprécie beaucoup. Puis toi aussi, tu as tellement des beaux projets, puis je pense que, comme on s'est dit au début, il faut s'encourager entre nous. Il faut s'encourager entre TDAH, entre femmes entrepreneurs, donc il y a tellement de belles choses à encourager là-dedans. Ouais. J'apprécie beaucoup, puis merci beaucoup d'avoir pris de ton temps avec moi pour partager ton histoire, ce que tu fais dans la vie. Je suis sûre que les gens vont
te découvrir. À bientôt, bye bye.